Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
Marie-Gabrielle est née à Douai, dans le Nord. Dès l'âge de 12 ans, elle s'est rendue compte qu'elle voulait aider les enfants à lire, notamment sa sœur, qui était dyslexique, et c'est de cette expérience qu'est née chez elle la prise de conscience qu'une telle difficulté d'apprentissage pouvait gâcher la vie. Aujourd'hui, Marie vit et travaille près d'Orléans. Après avoir enseigné surtout en CP-CE1, elle est devenue conseillère pédagogique. Le parcours de Marie est fait de changements multiples qui sont autant d'occasions de tout remettre à plat, tout en gardant un cap pour rester fidèle à une certaine éthique. C'est ainsi que Marie construit ce tissage entre le réel et le virtuel, entre son métier au sein de l'éducation nationale et le blogging ou encore l'édition. En 2013, elle a découvert des ouvrages canadiens sur de petits livres adaptés aux apprentis lecteurs. Alors, elle a voulu en fabriquer pour ses élèves. Puis devant le succès de la méthode, Marie a commencé à les partager en créant un blog pour ses petits livres. Toute cette démarche l'a engagée dans la formation et dans l'écriture et l'a conduite au CAFIPEMF. Marie trouve ainsi un bel équilibre, entourée de ses 4 ados. Elle dessine, jardine, fabrique toutes sortes de choses et joue également du piano. Marie-Gabrielle, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes lundi de Pâques, il est environ 10h30. Vous en êtes où en termes de quantité de chocolat absorbée depuis le début de ce week-end?
Je dirais certainement un peu trop quand même, mais bon.
on reste dans le raisonnable quand même ou on a explosé les...
Oui.
Bon, ça va.
On reste dans le raisonnable.
Quel regard portez-vous sur votre enfance, Marie?
Un regard plutôt simple. C'était pas compliqué, mon enfance. C'était plutôt simple, plutôt facile. J'ai eu cette chance d'avoir une enfance plutôt facile. Très ancrée dans des valeurs fortes, parce que c'était important dans la famille, pour mes parents, pour mes grands-parents, de nous faire passer des valeurs, des parents qui étaient d'ailleurs dans l'éducation nationale. D'aider les autres, d'être utile, de comprendre ce qu'ils vivent. Voilà, ça c'était important, dès que j'étais toute petite.
Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève?
En tant qu'élève, j'ai un souvenir très très précis d'un jour où je devais être peut-être en CE1 ou en CE2 et où on est allé dehors pour expérimenter avec des seaux, des tuyaux, comment fonctionnait le château d'eau qui était au-dessus de l'école. Et j'ai un souvenir de fou rire, il faisait très beau, la maîtresse en avait profité pour nous mettre dehors avec de l'eau, de ces tuyaux qu'on remplissait d'un côté, qui ressortaient de l'autre, et j'ai très très bien compris, j'ai un souvenir très 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 clair du moment où j'ai compris comment ça fonctionnait tout ça.
Comme quoi la manipulation reste une valeur sûre en pédagogie.
Ah oui, et puis alors avec beaucoup d'éclats de rire, j'ai souvenir d'un moment très joyeux et où on comprenait tout en rigolant, ce qui était quand même chouette.
Prof, etc.
Plus tard, vous avez été quel genre d'adolescente?
J'ai été une adolescente certainement... un peu pénible, qui se posait beaucoup, beaucoup de questions. Mais je me suis réfugiée dans la lecture, dans beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, beaucoup d'envie de comprendre et d'apprendre.
Alors, en quoi cette période de l'adolescence a influencé le choix du métier de professeur, puis ensuite de formateur que vous exercez aujourd'hui?
Je dirais deux périodes. Une première période où j'ai découvert la littérature, vraiment avec un immense bonheur, parce que ça répondait certainement à beaucoup de mes attentes et de mes questionnements, et où une prof de français a su comprendre ce dont j'avais besoin et m'a donné envie d'aller plus loin. Et donc, je me suis lancée dans des études littéraires. Et puis, une deuxième fois, un peu plus tard, la grande adolescence, je ne sais pas si j'étais déjà jeune adulte ou pas, où je me suis rendu compte, en faisant des centres aérés, que les enfants petits étaient aussi très intéressants et que surtout, ils pouvaient louper des étapes et que je serais plus utile à apprendre à lire à des élèves de CP qu'à enseigner Proust à des élèves de terminale. C'est peut-être faux, hein, mais c'était ma vision des choses à moi, en tout cas, à cette époque-là.
Se mettre à écrire des livres pour ses élèves, c'est un formidable défi. Comment vous y êtes-vous prise concrètement ?
J'ai longtemps hésité parce que je n'en sentais pas du tout les capacités. Et puis, ils en avaient trop besoin. Alors, j'ai commencé à écrire les histoires avec des textes déchiffrables. Ça, c'est facile. Beaucoup de maîtresses de CP font ça. Mais au moment d'aller chercher les images, ça n'allait pas. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de les faire moi-même. Alors, les premiers essais, j'ai sorti une vieille boîte d'aquarelle, mes crayons de papier, et franchement, c'était pas très chouette, mais c'est pas grave. J'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Du coup, j'ai refait jusqu'à ce que ce soit un peu moins pire. Et puis après, j'ai fait sur. Je me suis acheté une tablette et j'ai dessiné sur tablette. Ça permet de recommencer bien plus facilement.
Oui. Lorsque vous avez commencé ce projet d'écriture de petits livres, vous utilisiez une méthode toute faite en parallèle ou alors vous la construisiez vous-même ?
Non, au départ, j'utilisais une méthode toute faite, qui était celle qui était dans l'école quand je suis arrivée. Et pour la petite histoire, c'est très drôle parce que j'étais à Troyes à cette époque-là, dans l'Aube. J'ai utilisé la méthode Bulle, qui était la méthode qui était là quand je suis arrivée. Et il se trouve que là, en déménageant dans le Loiret, j'habite juste à côté de la. Je suis la voisine de Patricia Bucheton qui a écrit cette méthode. Ah. Voilà. et que j'ai appris à connaître, du coup. Enfin voilà, j'utilisais une méthode et j'utilisais les petits livres en plus. Et puis finalement, avec le temps, j'ai aussi eu envie de m'affranchir des méthodes.
Et vous avez franchi le cap, donc, de supprimer toute référence comme
oui.
Ça. D'accord. Alors, l'avantage d'écrire vos propres livres vous permet de modifier les éditions au fur et à mesure. Qu'est-ce qui détermine cette volonté de modifier les ouvrages, ces petits livres ?
La première chose, c'était... je les ai fait au début sans trop... réfléchir à une grande progression, sauf que c'était la progression de Bulle. Et puis ensuite, j'ai eu vraiment à cœur, quand j'ai vu que j'en avais fait beaucoup, de vraiment pouvoir me faire une progression de déchiffrabilité et que les enfants puissent tout seuls se dire « Tiens, j'ai passé ceux qui ont 2 étoiles, donc je vais faire 3 étoiles. » Donc j'ai vraiment réfléchi à comment les rendre de plus en plus complexes. Mmh. Que comment les élèves peuvent s'en servir pour progresser de manière un peu autonome.
Pour la déchiffrabilité, vous utilisez l'outil Anagraphe ?
Alors, il est arrivé après que j'ai fait la plupart de mes livres, donc je ne l'ai pas trop utilisé. C'est dommage, parce que s'il était arrivé avant, je pense que je l'aurais utilisé. Mmh. Donc, je m'étais fait tout un tas de tableaux Excel avec les graphèmes, les mots que je pouvais utiliser, les mots que je ne pouvais pas utiliser, bon, voilà.
Thank you. Parmi les nombreux livres que l'on trouve sur votre blog, il y a aussi les grands livres. En quoi leur utilisation est différente de celle des petits livres ?
Alors, ça permet une utilisation collective des petits livres, en fait, puisqu'ils sont toujours liés. Et ça permet de lire un livre ensemble. Au départ, les petits livres, c'était vraiment fait pour être individuels, ou alors pour lire avec la maîtresse, et pour pouvoir lire un vrai livre, même quand on a des difficultés. Le grand livre, c'est l'étape d'après, c'est aussi explorer comment on fait pour lire ensemble, pour lire comment on fait quand on est bloqué, comment on fait pour relire, voilà. Et puis pour explorer aussi la compréhension et l'univers du livre, même si franchement, c'est pas du tout le premier objectif de ces livres-là.
Alors, votre blog regroupe les livres que vous avez écrits, mais aussi de nombreuses pistes autour de l'activité d'enseigner. Comment choisissez-vous les sujets abordés ?
Alors voilà, j'ai créé le blog que pour les petits livres. Je ne me sentais pas du tout capable de proposer autre chose. Et puis finalement, de temps en temps, quand j'avais vraiment fouillé des séances, je les ai mises sur le blog en me disant, finalement, peut-être ça peut servir à d'autres. Et il y a vraiment une tache d'huile, c'est-à-dire que plus je réfléchissais dans ma classe, je me disais, mais pour que ce soit partageable, il faut que j'approfondisse. Donc, ça m'a beaucoup aidé à approfondir tout mon travail quotidien. Et du coup, je le rendais partageable quand j'estimais que j'avais assez travaillé.
Donc, c'est la quantité de travail qui détermine ce que vous êtes amené à offrir aux autres.
Oui, la quantité de réflexion. Enfin, je veux dire, c'est pas en temps, c'est plutôt est-ce que j'ai bien réfléchi, est-ce que ce que je fais, je l'assume et je suis d'accord pour dire que c'est quand même bien réfléchi.
Prof, etc.
On peut lire de nombreux retours d'expérience des lecteurs de votre blog. Vous avez une idée de l'audience de votre site ou du nombre de téléchargements de vos livres ?
Alors oui, j'ai une idée puisqu'on a des statistiques sur les sites. C'est pas un très très gros blog, c'est un petit blog, ce qui me va bien. Je dois avoir, suivant les journées, entre 4000 et 8000 visites. Évidemment, avec beaucoup plus de visites pendant les week-ends, les mercredis et les veilles de reprise après les vacances, comme tous les blogs des enseignants. J'y étais attachée au début à ces statistiques. Maintenant, je suis beaucoup plus attachée au retour et à la qualité de ce que je peux proposer et surtout de l'aide que je peux apporter.
Quel est le petit livre qui a été le plus téléchargé ? Vous le savez ?
Alors, les petits livres qui sont le plus téléchargés, c'est ceux vraiment pour commencer à lire. C'est les premières étoiles, les tout simples. J'ai pas l'idée d'un titre, par contre. Désolée.
Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ?
Oh, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Vous aviez dit dans mon portrait que j'ai 4 ados à la maison. Et il y en a quelques-uns qui sont très forts pour me faire beaucoup rire à certains moments. Moins à d'autres moments, mais
oui.
Ils ont cette espèce de façon de parler quand ils veulent, d'adolescents avec beaucoup d'humour, beaucoup de prise de recul. Et il y a des moments où on rit beaucoup.
Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ?
Professionnel ou plus personnel ? Je vais être entre les deux, en fait. Depuis 2 ans, j'ai la chance de pouvoir me rendre à pied au bureau de la circonscription quand j'y suis. Et c'est une petite marche très agréable et qui, à la fois, me permet de passer de la maison au bureau et du bureau à la maison dans l'autre sens. Et comme j'ai aussi la chance de travailler avec une équipe avec laquelle ça se passe très bien, je la fais avec beaucoup d'entrain le matin, cette petite marche, surtout quand le soleil se lève à l'heure où j'y vais, comme ces derniers temps.
Vous parlez de cette petite marche. Est-ce que, j'avais pas prévu cette question, mais est-ce que vous écrivez en marchant ? Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu assez souvent. Les personnes qui écrivent profitent de la marche pour déjà faire naître, laisser germer parfois des idées. Est-ce que ça vous arrive ?
Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui, c'est très clair que c'est là que je travaille les textes dans ma tête. Ça, c'est vrai.
Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous?
Il y en a beaucoup, je suis assez structurée par ça, mais la première, c'est vraiment de pouvoir respecter la personne que j'ai en face de moi, quand c'était un élève, maintenant ils sont moins en face de moi, même si je les vois toujours, et maintenant quand c'est des enseignants avec qui je travaille, j'ai vraiment cette volonté absolue de respecter la personne, même si parfois c'est difficile pour elle dans sa trajectoire professionnelle.
Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier?
Ben, ça va aller avec, c'est de savoir écouter les gens. Voilà, les enfants, beaucoup les enfants, je les ai beaucoup écoutés et je les écoute encore beaucoup. Et maintenant, beaucoup les adultes aussi.
Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui?
Alors, là, comme ça, comme on parle de travail, je me replacerais bien. Voilà, j'ai beaucoup travaillé autour des écrits de Maria Montessori. Ça m'a beaucoup intéressée. Et peut-être oui que pour encore mieux comprendre ce qui s'est joué à cette époque-là avec les enfants de l'époque. Ouais, peut-être elle, au tout début.
Prof, etc.
Comment définissez-vous le succès?
Ah, c'est une bonne question. La première image qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un gâteau de la gastronomie française que je fais à chaque Noël. Ça s'appelle un succès. Ça me fait très plaisir de faire ce gâteau-là et mes enfants passent plus un Noël sans avoir ce gâteau.
Vous avez réussi à ritualiser le succès, c'est fort.
c'est ça, tous les ans à Noël. C'est la première définition qui me vient, c'est drôle. Et sinon, je pense que c'est toujours vraiment pour moi une idée de relation, quoi. C'est une relation réussie.
On arrive déjà à la fin de cet agréable entretien. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années?
Qu'est-ce que je me souhaite? Je me souhaite de pouvoir mieux rencontrer les gens. Voilà, moi je suis arrivée dans la région orléanaise juste avant cette épidémie et ce confinement. J'ai pas eu le temps de rencontrer tous les collègues et toutes les classes que déjà on était confinés. Il y en a beaucoup que j'ai vu que à travers un écran. Ouais, j'ai envie de les voir en vrai. J'ai envie de les voir en vrai.
Merci Marie d'avoir accepté mon invitation.
Ben, merci beaucoup à vous.
Je mettrai le lien vers Graines de Livre en description de cet épisode. N'hésitez pas également à fouiller les autres rubriques du blog qui sont très riches en propositions. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser des commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc., avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi!